Chapitre 7. Le commissaire adjoint suivit une rue étroite, pareille à un fossé humide et boueux, traversa une large avenue et pénétra dans un édifice public où il demanda à voir le jeune secrétaire privé et non appointé d'un grand personnage. Ce jeune homme blond, à face imberbe, qui, avec ses cheveux symétriquement séparés, ressemblait à un grand potache, accueillit avec un air de doute la requête du commissaire adjoint. Il parla à voix basse. « S'il veut vous recevoir, je n'en sais rien. Il a quitté le Parlement il y a une heure, et il est rentré à pied pour s'entretenir avec le sous-secrétaire permanent. Il est, à présent, sur le point de repartir. » Il aurait pu le faire demander, mais il est venu lui-même pour se donner un peu d'exercice, je suppose. Tant que la session dure, il n'a guère d'autre occasion de prendre de l'exercice. Je ne m'en plains pas. J'aime assez ces petites promenades. Il s'appuie sur mon bras sans desserrer les dents. Mais il est très fatigué, et ma foi, il ne paraît pas d'une humeur particulièrement agréable en ce moment. Est-ce à cause de cette affaire de Greenwich? Oh oui, à propos. Il est bigrement en rogne après vos ordres. Mais, si vous y tenez, je vais aller lui demander s'il veut vous recevoir. C'est cela, vous serez bien gentil. Le jeune secrétaire admira tant de courage. Se composant une physionomie innocente, il ouvrit une porte et entra avec l'assurance d'un enfant privilégié. Il reparut presque aussitôt et fit un signe de tête au commissaire, qui, franchissant la même porte restée ouverte, se trouva dans une vaste pièce en présence de l'important personnage. C'était un homme de haute stature et de forte corpulence. Sa longue figure blanchâtre, élargie à la base par l'ample étagement d'un double menton, avait la forme d'un œuf frangé de grêle favori grisonnant. Le ministre paraissait sur le point d'éclater. Les plis transversaux, à la taille de sa redingote boutonnée, renforçaient cette impression comme si les boutons du vêtement supportaient une tension extrême. Un coup épais lui rejetait la tête en arrière. Ses yeux, au-dessus des paupières en poche, laissaient tomber des regards hautains et languissants de chaque côté du nez à la courbe agressive dont le promontoire émergeait avec noblesse du cercle pâle de la figure. Un chapeau de soie luisante et une paire de vieux gants étaient préparés sur l'extrémité d'une longue table et semblaient eux aussi distendus et énormes. Il était debout sur le devant du foyer, chaussé de fortes et amples bottines. Il ne prononça aucun mot de bienvenue. « Je voudrais bien savoir si ceci est le début d'une nouvelle campagne à la dynamite, » s'enquit-il aussitôt d'une voix grave et très douce. « N'entrez pas dans les détails, je n'ai pas le temps de les entendre. » Devant cette éminence énorme, le commissaire avait la sveltesse du roseau interpellant le chêne. Et de fait, la généalogie ininterrompue du ministre dépassait, par le nombre des siècles, l'âge du plus vieux chêne du royaume. « Non !» Autant qu'on puisse affirmer, je vous assure qu'il n'en est rien. Oui, mais vos assurances là-dessus consistent surtout à vouloir rendre ridicule le ministre responsable, fit le personnage avec un geste de la main vers la fenêtre qui donnait sur l'avenue. Le commissaire adjoint regarda calmement dans la direction de la fenêtre. Vous me permettrez de vous faire observer, Sir Ethelred, que je n'ai jamais eu l'occasion de vous donner une assurance quelconque. L'œil languissant et hautain se braqua sur le commissaire adjoint. « C'est vrai, » admit la voix grave et douce. « J'avais fait venir Heath. Vous êtes encore presque un novice dans votre poste. À propos, comment cela marche-t-il? Je crois que j'en apprends un peu plus tous les jours. J'espère que vous vous en tirerez. Je vous remercie, Sir Ethelred. J'ai justement appris quelque chose aujourd'hui, il n'y a pas même une heure. Il se trouve, dans cette affaire, des circonstances qui ne se rencontrent pas dans un attentat anarchiste ordinaire. Si profondément qu'on puisse l'examiner, et c'est pourquoi je suis ici. » Le haut personnage posa ses grosses mains sur ses hanches. « Très bien, continuez. Seulement, pas de détails, je vous prie, épargnez-moi les détails. Je ne vous en importunerai pas, Sir Ethelred, » reprit le commissaire sans nullement s'émouvoir. Pendant qu'il parlait, les aiguilles de la pendule derrière le dos du secrétaire d'État franchirent l'espace de 7 minutes. C'était une pendule monumentale, composée de masses arrondies et étincelantes, taillées dans le même marbre noir que le manteau de la cheminée, et dont l'échappement faisait un bruit imperceptible et lugubre. Il parla en phrases courtes, coupée de parenthèses, entre lesquelles chaque menu fait, c'est-à-dire chaque détail, venait s'insérer avec une aisance parfaite. Aucun murmure, aucun geste même, ne fit redouter une interruption. Le grand personnage aurait pu être la statue de l'un de ses nobles ancêtres, dépouillé de l'armure des croisés et affublé d'une redingote de hasard. Le commissaire adjoint avait l'impression qu'il était libre de parler pendant une heure, mais il ne perdit pas la tête, et à la fin des 7 minutes, il coupa court à son monologue, avec une conclusion soudaine, qui, reproduisant la phrase du début, surprit Sir Ethelred par sa force et sa promptitude apparente. Dans les dessous de cette affaire, autrement sans gravité, nous nous trouvons en présence de faits insolites qui nécessitent une conduite toute spéciale. Le ton de Sir Ethelred se fit plus grave encore, plein de conviction. « Je crois bien, des faits impliquant l'ambassadeur d'une puissance étrangère. »« Oh, l'ambassadeur !» protesta le commissaire, redressant sa taille mince avec un demi-sourire. « Il serait excessif de ma part d'avancer rien de pareil. D'ailleurs, c'est absolument inutile, parce que, si j'ai deviné juste, que ce soit à lui ou à l'un de ses sous-ordres, au concierge même, que revienne la responsabilité, ce n'est là qu'un détail. » Sir Ethelred ouvrit la bouche toute grande, sombre caverne, au bord de laquelle son nez crochu semblait se pencher curieusement. Il en sortit une sorte de grondement sourd, paraissant venir d'un orgue lointain, au registre de l'indignation méprisante. « Non, ces gens s'emparent trop impossibles. Où veulent-ils en venir en important ici leur méthode de tartare? Un Turc montrerait plus de décence. » « Veuillez vous rappeler, Sir Ethelred, qu'à justement parler, nous ne savons rien de positif jusqu'à présent. » « Non, mais comment définiriez-vous cela? En peu de mots. Une impudente témérité, un enfantillage criminel, peut-être. Nous ne pouvons tolérer ici les enfantillages d'enfants mal élevés. » riposta le haut personnage, s'enflant, si possible, un peu davantage. Et son regard hautain s'écrasa sur le tapis au pied du commissaire adjoint. « Il va falloir leur donner sec sur les doigts en cette circonstance, » reprit-il. « Nous devons être en posture de... Quelle est votre idée générale, en quelques mots ? Inutile d'entrer dans les détails. En principe, je serais d'avis de ne pas tolérer chez nous l'existence d'agents secrets. Ils ne servent qu'à aggraver le mal qu'ils sont supposés combattre. L'espion crée de toutes pièces ses informations. Cela ne fait de doute pour personne. Toutefois, comme nous vivons dans un monde imparfait, la voix grave laissa tomber, soyez clair, je vous prie. Eh bien, Sir Ethelred, sitôt que m'apparut le caractère particulier de cette affaire, j'ai jugé qu'il fallait la mener avec discrétion, et c'est pourquoi je me suis permis de venir jusqu'ici. Parfait. Approuva le haut personnage avec un regard complaisant par-dessus son double menton. « Je suis heureux qu'il y ait quelqu'un dans votre boutique qui pense qu'un secrétaire d'État soit bon à consulter de temps en temps. » Le commissaire eut un sourire amusé. « À vrai dire, je pensais qu'il pourrait être préférable, dans cette affaire, de remplacer Heath par... « Heath, un âne, hein ?» s'écria le dignitaire avec une animosité visible. « Du tout !» « Je vous en prie, Sir Ethelred, ne donnez pas cette injuste interprétation à ma pensée. »« Alors quoi, trop habile, de moitié ?»« Non plus, du moins, pas toujours. »« Toutes les bases de mes suppositions, je les lui dois. »« C'est un ancien de la police. »« Il m'a dit qu'il lui faut se servir des outils qu'il trouve. »« Mais ces outils-là doivent, à mon avis, être remis au chef du service des recherches spéciales. » au lieu de rester la propriété privée de l'inspecteur Heath. Ma conception de nos devoirs s'étend jusqu'à la suppression des agents secrets. Mais Heath est ancien dans le service, et il m'accuserait d'en pervertir la moralité et d'en compromettre l'efficacité. Il jugerait cela une protection étendue à la classe criminelle des révolutionnaires. Il n'y verrait pas autre chose. Oui, mais quelle est au juste votre pensée là-dessus? Je pense d'abord que le soulagement est maigre, de déclarer que tout acte de violence, attentat contre la propriété ou contre les personnes, n'est pas l'œuvre de l'anarchie, mais de quelque cause entièrement différente. Ensuite, il est évident que l'existence parmi nous de ces gens à la solde de gouvernements étrangers contrecarre l'efficacité de notre surveillance. Ainsi, dernièrement, l'inspecteur Heath vous a fait une déclaration rassurante. Sa déclaration était parfaitement fondée, et cependant, voilà l'épisode qui se produit. J'emploie à dessein le mot épisode, car je ne crains pas de l'affirmer, cet attentat, en dépit de son air de sauvagerie, ne participe d'aucun plan général. Les particularités mêmes qui surprennent et déroutent l'inspecteur Heat en établissent, à mes yeux, le caractère accidentel. Je m'abstiens des détails, Sir Ethelred. Le personnage, debout devant la cheminée, avait écouté avec une attention profonde. « C'est bien, soyez aussi concis que possible. » Le commissaire adjoint indiqua par un geste de déférence qu'il savait être concis. On discerne dans toute cette affaire une stupidité et un manque de logique qui me donnent le meilleur espoir d'y découvrir autre chose qu'un accès individuel de fanatisme. C'est un cas prémédité, indiscutablement. Celui qui a perpétré l'attentat paraît avoir été conduit par la main sur le théâtre de l'exploit et abandonné précipitamment à ses propres moyens. Il y a tout lieu de supposer qu'il fut amené là par un complice. D'où l'on est forcé de conclure qu'il ne connaissait pas suffisamment l'anglais pour demander son chemin, à moins que l'on ne préfère accepter l'hypothèse fantaisiste d'un sourd muet. Je me demande même, mais ce serait oiseux. Que la destruction de cet homme ait été le résultat d'un accident, c'est ce qui ne peut faire de doute. Le fait n'a rien de rare ou d'extraordinaire, d'ailleurs, en pareil cas. Mais l'extraordinaire, c'est la découverte d'une adresse cousue sur son vêtement. L'étrangeté même de ce petit fait me donne à penser qu'en le creusant, nous toucherons le fond de l'affaire. Au lieu de charger Heat de continuer l'enquête, mon intention est de chercher l'explication personnellement, par moi-même, je veux dire, là, justement, où je puis la trouver. Et je compte la trouver dans une certaine boutique de Brett Street et sur les lèvres de certains agents secrets qui fut jadis l'espion de confiance de feu le baron Stott Wartenheim, ambassadeur d'une grande puissance à la cour de St. James. Le commissaire adjoint se tut et ajouta « Ces gens sont une véritable peste ». Afin de lever son regard tombant sur la figure de son interlocuteur, le personnage planté sur le devant du foyer avait graduellement porté sa tête en arrière, attitude qui lui donnait un air de dédain prodigieux. « Pourquoi ne pas laisser ce soin à Heat ?» demanda Sir Ethelred. « Parce que Heat est un de ces vieux agents du service qui ont une morale à eux. Ma ligne d'enquête lui ferait l'effet d'une infraction au devoir. Pour lui, le devoir consiste à incriminer autant de sommités anarchistes qu'il le peut. Grâce aux quelques menues indications recueillies au cours de ses recherches sur place, tandis que moi, à ce qu'il dirait, je ne cherche qu'à établir leur innocence. À ce qu'il dirait, n'en doutez pas, il le dirait avec une indignation et un mépris dont vous ne pouvez vous faire une idée. C'est un excellent serviteur, dont il ne faut cependant pas mettre la fidélité à une trop rude épreuve. C'est là toujours une erreur. En outre, il me faut carte blanche, une liberté d'agir plus grande qu'il ne serait prudent de l'accorder à Heat. Je ne me sens pas le moindre désir d'épargner ce Verloc. Il sera, je crois, fort surpris de voir si rapidement découvrir sa complicité, à quelque titre que ce soit, dans cette affaire. Donc, pas difficile de l'effrayer. Mais notre véritable objectif réside quelque part derrière lui. Et je vous demande l'autorisation de lui offrir telles assurances de sécurité personnelle que je pourrais juger convenables. Accordé, fit le haut personnage, trouvez tout ce que vous pourrez, et agissez à votre guise. Je vais m'y mettre sans perdre de temps, ce soir même. » Sir Ethelred glissa une main sous le pan de sa redingote et, inclinant la tête en arrière, regarda fixement le commissaire adjoint. « Nous aurons une séance prolongée ce soir. Venez à la chambre me rapporter vos découvertes, si nous y sommes encore, dit-il. Je préviendrai mon secrétaire. Il vous fera entrer sans retard. » Le commissaire adjoint fut extrêmement surpris et flatté. « Je viendrai certainement à la chambre vous faire part de mes découvertes, pour le cas où vous auriez le temps de... »« Je n'aurai pas le temps, » interrompit le grand personnage, « mais je vous recevrai. »« Je n'ai même pas le temps maintenant de... »« Du reste, vous partez aussi. »« Oui, Sir Ethelred. » Le personnage avait à ce point renversé sa tête en arrière pour mieux observer le commissaire adjoint qu'il lui fallait presque clore les yeux. « Ah, et comment ferez-vous? Prendrez-vous un déguisement ?»« Non, pas de déguisement, mais je changerai de vêtements. » »« Oui, certes, » acquiesça le grand homme avec une sorte de détachement hautain. Il tourna lentement sa grosse tête et, par-dessus l'épaule, jeta un regard oblique à la massive pendule de marbre, au tic-tac faible et sournois. Les aiguilles dorées avaient profité de l'occasion pour parcourir derrière son dos 25 minutes. Le commissaire adjoint, qui ne voyait pas le cadran, devint un peu nerveux dans l'intervalle, mais le grand homme lui montra de nouveau un visage imperturbable. « Très bien, » dit-il, et le silence qui suivit parut manifester un mépris résolu pour la pendule officielle. Puis il posa une question. « Quelle est la raison qui vous pousse à agir ainsi ?»«
J'ai toujours été d'avis, » commença le fonctionnaire.
« Ah oui, d'avis, c'est tout naturel, mais le motif immédiat. » « Comment dirais-je, Sir Ethelred, l'antagonisme d'un homme nouveau à l'égard des méthodes anciennes. Le désir de savoir les choses de première main. Un peu d'impatience aussi. C'est toujours la même profession que j'exerce ici, mais le harnais est différent. Il me blesse en 2 ou 3 endroits sensibles. J'espère que vous vous en tirerez tout de même, » souhaita le ministre, avec bienveillance, en tendant sa main, molle au toucher, mais large et puissante, comme celle d'un fermier glorifié. Le commissaire la serra et sortit. Dans la pièce voisine, le secrétaire, qui l'avait attendu, juché sur le bord d'une table, s'avança à sa rencontre en réprimant sa pétulance naturelle. « Alors, ça s'est bien passé ? » demanda-t-il avec un ton d'allègre importance. « Parfaitement. Vous vous êtes acquis mon éternelle gratitude, » répondit le commissaire, dont la longue figure avait l'air d'être en bois, par contraste avec le caractère particulier de la gravité de l'autre, perpétuellement prête à s'animer de grimaces et de rires. « C'est très bien, mais vous ne pouvez vous imaginer combien il est irrité par les attaques contre son projet de loi sur la nationalisation des pêcheries. On prétend que c'est le commencement de la révolution sociale, et vraiment c'est une mesure révolutionnaire. Mais ces gens-là n'ont aucune décence. Les attaques personnelles, je lis les journaux, » observa le commissaire. « C'est odieux, hein ? Vous n'avez aucune idée de la somme de travail qu'il expédie tous les jours. Il fait tout lui-même, comme s'il ne pouvait se fier à personne pour ses pêcheries. Et cependant, il a consacré une demi-heure à l'examen de mon menu fretin, » remarqua le commissaire. « Menu, vous dites ? Tant mieux. Mais c'est fâcheux alors que vous l'en tourmentiez. La lutte qu'il soutient le fatigue terriblement. Il s'épuise. Je le sens à la façon dont il s'appuie sur mon bras. Et puis, est-il en sûreté dans les rues ? Cet après-midi, Malins a déployé sa brigade par ici. Un agent de police est posté à tous les réverbères, et sur 2 personnes que nous rencontrons du Parlement jusqu'ici, il y en a une qui est visiblement un agent de la sûreté. Ça ne tardera pas à lui porter sur les nerfs. Il ne manquerait plus que ces malfaiteurs étrangers lui lancent quelques bombes. Ce serait une calamité nationale. Le pays ne peut se passer de lui. « Sans parler de vous, puisqu'il s'appuie sur votre bras, » ajouta froidement le commissaire. « Vous péririez tous les deux. Ce serait une façon prompte pour un jeune homme de passer à la postérité. Les ministres anglais sont trop rarement assassinés pour que l'incident reste inaperçu. Mais sérieusement, je crains bien que si vous tenez à passer à la postérité, il ne vous faille accomplir quelque exploit pour cela. Sérieusement, vous ne courez l'un et l'autre d'autres dangers que le surmenage. » Le sympathique secrétaire profita de la réflexion pour lâcher un éclat de rire. « Les pêcheries ne me tueront pas, et je suis habitué à veiller, » déclara-t-il avec ingénuité. Mais par une componction soudaine, il assuma, comme on met un gant, l'air accablé d'un homme d'État. Sa puissante intelligence supportera n'importe quelle somme de travail. C'est pour ses nerfs que je redoute l'attention. La bande réactionnaire, avec cette grossière brute de Cheeseman à sa tête, l'abreuve d'insultes tous les soirs. Dame, s'il s'obstine à mettre en branle une révolution, murmura le commissaire. L'heure est venue de tenter l'aventure, et il est le seul homme qui soit de taille à le faire, protesta le jeune révolutionnaire, s'emballant sous le regard calme et réfléchi de son interlocuteur. Quelque part, dans un corridor, une sonnerie retentit avec insistance, et, animé d'une vigilance dévouée, le secrétaire dressa les oreilles. « Il est prêt à partir, » s'écria-t-il à mi-voix, et, saisissant son chapeau, il se précipita hors de la pièce. D'un pas moins élastique, le commissaire sortit par une autre porte. De nouveau, il traversa la large avenue, s'engagea dans la ruelle et regagna, de la même allure accélérée, son bureau. En fermant la porte, il porta ses regards sur sa table. Après un moment d'immobilité, il traversa la pièce,
examina le plancher alentour, s'assit et sonna. « L'inspecteur principal Heath est-il parti ?»«
Oui, monsieur, il y a une demi-heure. »«
C'est bien, » fit-il avec un signe de tête. Assis sans bouger, le chapeau repoussé en arrière sur son front, il se dit que c'était bien là un exemple du maudit toupet de Heath d'emporter subrepticement l'unique pièce à conviction. Mais il n'éprouvait aucune animosité. Les vieux serviteurs se permettent des libertés. Le morceau de par-dessus, avec l'adresse cousue, n'était pas un objet à laisser traîner. Chassant de son esprit cette manifestation de défiance de la part de l'inspecteur, il écrivit un mot qu'il fit porter à sa femme, la priant de présenter ses excuses à la protectrice de Michaelis, chez qui il devait dîner. Dans une sorte d'alcôve fermée d'un rideau et contenant une table de toilette, une étagère et une rangée de porte-manteaux, il s'affubla d'un court veston et d'un chapeau rond et bas, sous lequel ressortait davantage la longueur de sa figure sévère. Revenu à la pleine lumière de la pièce, il apparut comme une sorte de Don Quichotte, méditatif et froid, avec des yeux cernés de fatigue et des gestes résolus. Comme une ombre discrète, il quitta vivement le lieu où il accomplissait sa tâche quotidienne. Pour gagner la rue, on eût dit qu'il descendait dans un aquarium bourbeux dont on aurait vidé l'eau. Une humidité ténébreuse et morne l'enveloppait. Les murs des maisons ruisselaient. La boue de la chaussée scintillait de reflets qu'on eût cru phosphorescents. Et quand, par une rue étroite qui flanquait la gare de Charing Cross, il déboucha dans le Strand, le génie du lieu l'assimila. On aurait pu le prendre pour un de ces étrangers douteux qui rôdent le soir dans les coins sombres du quartier. Sur le bord du trottoir, il s'arrêta brusquement et attendit. Son œil exercé avait distingué, parmi le mouvement confus des lumières et des ombres qui encombraient la rue, l'approche rampante d'un cab. Il ne fit pas le moindre signe, mais lorsque le marchepied glissant au long du trottoir arriva devant lui, il grimpa adroitement dans le véhicule, en évitant la grande roue, et, soulevant la petite trappe du plafond, jeta un ordre avant que le cocher, qui, du haut de son perchoir, surveillait nonchalamment les alentours, se fût douté qu'il avait chargé. La course ne fut pas longue. À un certain signal, brusquement, elle se termina, nulle part en particulier, entre deux réverbères, devant un grand magasin de draperies, longue rangée de boutiques déjà calfeutrées pour la nuit, sous leurs volets de tôle ondulée. Passant par la trappe une pièce d'argent, le client sauta prestement sur le trottoir et disparut, laissant dans l'esprit de l'automédon une impression de spectre mystérieux et bizarre. Mais comme la dimension de la pièce de monnaie satisfaisait son toucher, et que son éducation n'avait rien de littéraire, le cocher ne fut pas troublé par la crainte de la retrouver changée en une feuille morte dans sa poche. Placé par la nature même de sa vocation fort au-dessus de sa clientèle, il en contemplait les faits et gestes avec un intérêt limité. Le brusque demi-tour qu'il fit décrire à son cheval exprima sa philosophie. Pendant ce temps, le commissaire donnait déjà ses ordres au garçon du petit restaurant italien situé au coin de la rue, un de ces traquenards pour les affamés, avec une salle étroite et longue, amorcée de glace et de nappes blanches, sans rien qui pût aérer son atmosphère particulière, emplie des relents d'une cuisine frelatée et dupant l'abjecte humanité dans la plus pressante de ses misérables nécessités. Au milieu de ces effluves délétères, le commissaire adjoint, méditant son entreprise, semblait perdre davantage encore de son identité. Il éprouvait une sensation de solitude, de liberté dangereuse qui n'avait rien de désagréable. Tandis que, debout devant une glace, il attendait la monnaie de la pièce donnée en paiement pour son addition, il fut surpris d'avoir à ce point un air étranger. Avec un regard mélancolique et scrutateur, il contempla son image. Puis, par une inspiration soudaine, il releva le collet de son veston. Cet arrangement lui parut excellent, et il le compléta en relevant aussi les pointes de sa moustache noire. « Voilà qui va très bien, » se dit-il, satisfait des subtiles modifications qu'apportaient ses retouches à son aspect personnel. « Je serai en outre un peu mouillé, un peu crotté. » Il aperçut soudain le garçon qui posait sur la table une pile de menues pièces d'argent, tout en suivant du coin de l'œil le long dos d'une grande fille, pas très jeune, qui se dirigeait vers une table du fond, en habitué, l'air indifférent et inaccessible. En sortant, le commissaire se formula cette réflexion que les consommateurs avaient, à la fréquentation de ce lieu aux mangeailles falsifiées, perdu toutes leurs caractéristiques nationales et individuelles. Fait étrange, puisque le restaurant italien est une institution si éminemment britannique. Tout autant que les plats qu'on leur servait, ces gens étaient dénationalisés, dépourvus de toute marque d'individualité. Leurs personnes non plus n'avaient rien qui pût permettre de leur assigner une classe sociale, une profession, une race. Ils semblaient créés pour le restaurant italien, à moins que celui-ci, par hasard, n'ait été créé pour eux. Hypothèse inadmissible, puisque l'on ne saurait situer ces personnages énigmatiques nulle part ailleurs qu'en ces établissements spéciaux, et qu'on ne les rencontrait que là. Impossible aussi de se former une idée précise de leurs occupations diurnes et des endroits où ils peuvent coucher la nuit. Lui-même s'était désorbité comme eux, et personne n'aurait su deviner ses fonctions. Quant à aller se coucher, il entretenait un doute à ce sujet dans son propre esprit. Non pas, certes, pour ce qui était de son domicile, mais quant au moment où il serait en mesure d'y rentrer. Un délectable sentiment d'indépendance l'envahit lorsqu'il entendit les portes vitrées se refermer derrière lui avec un bruit imparfaitement étouffé. Tout de suite, il se lança dans une immensité de boue visqueuse et de murs détrempés, éclairés de-ci de-là par des becs de gaz, et il se sentit enveloppé, écrasé, pénétré, étouffé, suffoqué par les ténèbres d'une soirée humide de Londres, ténèbres composées de poussière de suie saturée d'eau. Bread Street se trouvait tout près dans les environs. Elle partait, étroite et oblique, d'un espace triangulaire entouré de maisons sombres et mystérieuses, temples du commerce au détail, vides la nuit de leurs trafiquants. Seule la boutique d'encoignure d'un fruitier projetait une lumière aveuglante. Alentour, tout était noir, et les quelques passants disparaissaient d'un seul coup dès qu'ils avaient franchi la limite des mannes d'orange et de citron. Leurs pas n'avaient aucun écho, on n'entendrait plus jamais rien d'eux. Le chef aventureux du service des recherches spéciales observait de loin ces disparitions d'un œil intéressé et le cœur léger, comme s'il eût été embusqué seul dans la brousse, à des milliers de milles des pupitres et des encriers officiels. Cette méditation allègre et dispersée devant une tâche de quelque importance tend à prouver qu'après tout, notre monde n'est pas une affaire tellement sérieuse, car, par tempérament, le commissaire adjoint n'était pas enclin à la frivolité. Un agent de police, poursuivant sa ronde, dessina sa silhouette contre la lumineuse splendeur des oranges et des citrons et s'engagea sans hâte dans Bread Street. Tout comme un membre des classes criminelles, le commissaire resta dissimulé et attendit le retour de l'agent. Mais l'agent parut être perdu définitivement pour sa brigade. Il ne revint pas. Sans doute s'était-il éclipsé par l'autre extrémité de Bread Street. Acceptant cette conclusion, le commissaire s'engagea à son tour dans la rue et rencontra bientôt une immense tapissière arrêtée devant les fenêtres mal éclairées d'un restaurant de cocher. Les chevaux, la tête abaissée jusqu'au sol, broyaient avec régularité le contenu de leur musette. Plus loin et en face, une autre tache de lumière suspecte émanait de la devanture de M. Verloc, entre les journaux étalés et pendus, par-dessus les piles de boîtes en carton et les livres de formats divers. Sans traverser la chaussée, le commissaire examina la boutique. Pas d'erreur possible. Auprès de la vitrine, encombrée de ses marchandises indescriptibles, la porte entrebâillée laissait s'allonger sur le trottoir une bande étroite de lumière. Derrière le commissaire, la tapissière et ses chevaux, confondus en une seule masse, semblaient un monstre vivant, barrant de son dos carré la moitié de la rue et lançant des ruades qui sonnaient dures sous les sabots ferrés, secouant des cliquetis et des tintements et soufflant de redoutables hennissements. Le dur miroitement des vitres d'une taverne vaste et prospère bloquait, par-delà une large voie, l'autre bout de Bread Street. Ces barrières resplendissantes, obstruant les ombres rassemblées autour de l'humble logis où M. Verloc abritait son bonheur domestique, semblaient forcer l'obscurité de la rue à se replier sur elle-même. Elle la rendait plus maussade, plus menaçante et plus sinistre.